Là-haut, première partie, chapitre 3. Pendant plusieurs jours, le village ignora les résultats positifs de la visite de Rarogne. Ce diable d'homme, tout rond, tout franc, tout bon garçon, avait écouté les offres d'un chacun, visité des terrains, examiné les environs, payé à boire à Pierre et à Paul en parlant de la pluie et du beau temps, mais sans dire un mot de plus qu'il ne voulait. Après son départ, le seul indice qu'on put avoir de ses grands projets, ce furent les allures mystérieuses des trois propriétaires avec lesquels il avait le plus longuement causé. Frédéric Élie Boson, d'abord. Un mince petit homme, sec comme une jambe de chèvre fumée, qui se trouvait toujours partout où il y a de l'argent à gagner, avec son œil futé et ses maigres doigts rapaces. Son terrain, situé au bord de la route, juste au sortir du village, traversé par un de ces cours d'eau qui descendent des névés, semblait convenir très bien au dessein de Rarogne. Puis Alexis Poncher, cousin germain du propriétaire de la Dent Grise, François David. Un sournois taciturne, celui-là, au visage rasé, aux lèvres minces, au teint bilieux, qui jalousait son parent et lui jouait toutes sortes de mauvais tours. Enfin, prélas Georges-Étienne, le frère de Balthazar, auquel il ne ressemblait point, heureusement pour ses 8 filles. Car au lieu de courir après les chamois, ce qui devient un métier de plus en plus illusoire, il avait imaginé un ingénieux commerce de lait de chèvre, dont il envoyait des troupeaux, sous la garde de ses lurones, dans les principales villes des bords du Léman. Les terrains de Prélaz et de Poncher confinaient à celui de Boson, qu'ils auraient avantageusement complété. Les plus curieux et les plus perspicaces, habiles à observer les menus faits, remarquèrent que ces trois personnages tenaient de fréquents conciliabules. On en fut d'autant plus frappé qu'il n'y avait entre eux aucun lien de parenté, que même ils appartenaient à des partis adverses. Boson était libéral, les deux autres conservateurs. Ils professaient des idées subversives, surtout par rapport au curé, tandis que Georges-Étienne était un vrai bon dieusard, dont toutes les filles, avant de partir pour la ville, faisaient partie de la confrérie du rosaire, et qui chantait lui-même aux processions du dimanche, en ouvrant une bouche aussi large que le four du boulanger. Même sa régularité à faire maigre le vendredi lui avait valu le surnom de « Pécafava ». Donc, si ces trois gaillards s'arrangeaient pour se rencontrer, la faux ou le râteau sur l'épaule, c'était sûrement parce qu'ils se brassaient quelque chose entre eux. Le brave François David, que les projets de Rarogne inquiétaient plus qu'aucun autre, essaya de tirer quelques lumières de son cousin, car malgré tous les préjudices qu'il en avait subis, il ne pouvait pas croire à ses mauvais sentiments, étant d'un naturel confiant. On les vit arpenter longtemps la place, un soir, à l'heure où les femmes sont au lavoir. François David pérorait, s'échauffait, faisait des gestes. Alexis, les mains dans le dos, l'écouta tant qu'il voulut, mais ne desserra pas les lèvres. Joseph Cascaté essaya, sans plus de succès, d'entreprendre Frédéric Élie. Et Gaspard Clévoz, dont les hypothèses allaient toujours au plus court, répétait « C'est bien sûr qu'ils vont s'arranger. Vous verrez que ça décidera mon père à démolir sa baraque. » S'il se trouvait sur la place en parlant ainsi, il jetait des regards de dédain, presque de haine, vers le vieux chalet, comme s'il lui en voulait d'être en bois, construit pour une seule famille, et de s'obstiner à rester debout grâce à l'entêtement du vieux. Or, un matin, Balthazar, qui partait pour la chasse avant le jour, distingua 3 ombres sur la place dans l'obscurité. Il s'en approcha, étant de ceux qui veulent toujours savoir, et reconnut les 3 conspirateurs, endimanchés, précautionneux. « Tiens, Georges-Étienne, qu'est-ce que tu fais dehors à 7 heures ?» Embarrassé, Pécafava répondit « Tu vois, je ne fais rien. » Je pense bien que tu ne vas pas braconner, fit Balthazar d'un air goguenard en tapant sur les parties de sa carabine démontée que cachait sa blouse. Georges Étienne saisit la balle au bon. Tâche de faire un peu attention, toi, dit-il. Tu sais que c'est vendredi aujourd'hui. Eh bien, quoi, le jour maigre? Le jour du gendarme aussi. Balthazar éclata de rire. Le gendarme? Ah bien oui. Est-ce qu'il m'a jamais rien dit, le gendarme?
C'est que c'est un nouveau, dit Georges Étienne.
Il est méchant, celui-là. Il est monté à Vionnet avant-hier et il a dressé procès-verbal à Josserand, qui avait tiré des perdrix.
Balthazar regarda son frère avec stupéfaction.
« Procès-verbal ? » s'écria-t-il. « Dresser procès-verbal ? Un gendarme ? Ah ben, elle est bonne, celle-là !»
De fait, cela ne s'était jamais vu, ni à Valenches, ni dans la contrée, où les gendarmes viennent faire leur tournée à jour fixe par crainte de surprendre personne, et ferment les yeux quand les braconniers, par bravade, choisissent justement ce jour-là pour leurs exploits. Boson intervint.
« Bah ! » dit-il,
« Balthazar est un vieux de la vieille, il connaît toutes les sentes, ce n'est pas lui qui se laissera prendre. »
« J'en suis à mon 364e, reprit Balthazar. Il faut que j'arrive à 400. Après, je m'arrêterai. Mais ça ne sera pas pour le gendarme. »
Puis, revenant à son point de départ, « Vous allez à la plaine, hein ?» Boson répondit, « Bonne chasse !» Et tirant sa montre, il fit signe aux autres qu'il était temps de se mettre en route. Balthazar riposta avec un gros rire, « À vous aussi !» Comme le train n'attend pas, ils se résignèrent à se mettre en route sous ses yeux. Un peu penaud d'avoir été surpris. Quant à Balthazar, il savait à peu près où il irait tirer son 365e chamois. À 5 ou 6 heures de grimper dans les contreforts du Florent, où il en vient encore de temps en temps. Il commença donc à suivre le grand chemin à larges enjambées, en sorte qu'en moins d'une demi-heure, il fut en vue des premières maisons du Trécou. Le hameau perché dans un rétrécissement de la vallée, sur les pentes raides qui tombent à la Tause, près du torrent dont il a pris le nom. Il arriva ainsi devant la bâtisse à laquelle travaillaient, depuis 2 ans, tous les Riédi. Le père, charpentier de son état, le fils aîné, Jodoc, la forte tête de la famille, et les 3 autres fils, dont le dernier venait d'avoir 16 ans, aidés seulement par des vagabonds de passage, qu'il payait d'une assiette de soupe et d'un verre de vin. Un hôtel encore, cela va sans dire. Car au Trécou, comme dans toute la vallée, on voulait profiter du courant. Pourtant, le site est tellement escarpé qu'on peut à peine y jucher les maisons. Et les gens du Trécou, qui s'en vont presque tous garder les troupeaux tout l'été dans les hauts pâturages, passent pour avoir l'esprit lourd et prêtent à rire à ceux de Valenches. N'importe, on devient malin dès qu'il s'agit de gagner de l'argent. D'ailleurs, les Riédi étaient originaires de Conches, dans le Haut-Valais. Ils avaient pris racine dans le pays depuis 2 générations seulement. D'abord mal vus, comme le sont les étrangers, ils avaient arrondi leurs champs avec prudence. Terriblement laborieux, économes, rapaces, leur construction était un chef-d'œuvre d'industrie. Ils en avaient créé jusqu'à la matière première, les pierres qu'ils rapportaient de très loin, sur leur dos, le bois qui ne leur coûtait que le prix payé à la scierie. Maintenant, ils arrivaient au terme. Depuis la veille, un bouquet de sapins se balançait au haut du toit, qui n'attendait plus que ses ardoises. En sorte que Jodoc, comme si l'hôtel fonctionnait déjà, flânait devant la porte, les mains dans les poches de son veston. Balthazar s'arrêta devant lui. « Tu as fini ? » demanda-t-il en levant son œil unique pour détailler la bâtisse. « Il n'y a plus que l'intérieur. Veux-tu voir ? » ?»«
Je veux bien. »
Les 2 hommes montèrent d'étage en étage, traversant sur des poutres les plafonds encore vides.
« Ce n'est pas tant mal, hein ? » dit Jodoc. C'est solide, répondit
Balthazar. Content de cet éloge, le futur aubergiste dit
« Viens boire un verre ».
Ils s'attablèrent dans une pièce du rez-de-chaussée qui ouvrait sur la route et qu'on avait achevée pour pouvoir rafraîchir les passants. Jodoc aimait à parler de ses affaires. Il raconta ses espérances au chasseur, qui l'écouta, parce que le vin était bon, et reprit son chemin sitôt la bouteille vidée. Cette fois, il quitta la grande route pour suivre un sentier rapide qui traverse les bois. Était-ce parce que le soleil tapait dur? Était-ce le vin de Riedi qui pesait sur ses jambes? Le fait est qu'il se sentait lourd, comme pris de paresse, ayant soudain perdu toute envie de courir après son 365e. De vagues idées de repos et de stabilité trottaient dans sa cervelle. Car, enfin, l'âge arrive où l'on ne serait pas fâché de rester un peu tranquille, et il y a des métiers qui ne sont bons que pour la jeunesse. Ces gaillards qui construisent des hôtels, ils ont bien des soucis, c'est vrai, mais ils s'assurent du pain pour leurs vieux jours, des cheminées pour endormir leur rhumatisme à la bonne chaleur du bois qui flambe. Tandis qu'à courir par les couloirs, on les réveille, les maudites douleurs, quand l'été les a assoupis. Or, justement, Balthazar sentait un vague tiraillement à la jambe gauche. « Je ne suis pas en train aujourd'hui, » pensa-t-il. Alors, sous prétexte de se reposer un peu, il s'étendit sous un sapin, et il s'endormit. Quand il s'éveilla, le soleil était au zénith. Balthazar regarda autour de lui, se leva, sentit sa jambe qui le tiraillait plus fort, songea « Trop tard pour aujourd'hui, bonsoir la chasse !» Et prenant aussitôt son parti de la déconvenue, il se mit à dévaler par les pentes. Comme il s'arrêtait sur un replat pour regarder en bas, en se demandant s'il allait descendre à pic, un spectacle inattendu attira son œil unique. Au-dessous de la paroi rocheuse, le dos contre un sapin, le gendarme, le nouveau gendarme, celui qui dressait des procès-verbaux, déjeunait confortablement, avec à main droite son sac rempli de bonnes choses, à gauche sa gourde de cuir et son képi. Ayant débouché son ceinturon et déboutonné sa tunique, il était là, bien à l'aise pour savourer son saucisson, en l'arrosant d'une bonne goutte de petit blanc. Or, Balthazar mourait de faim, l'estomac creusé par le vin de Jodoc. « Eh, grand fin diable » jura-t-il. En même temps, il sentait se réveiller sa vieille rancune contre les gendarmes, pourtant inoffensifs, dont les épaulettes et le pantalon à raies rouges l'agaçaient toujours. Il ajouta « Ah, tu veux nous ennuyer, toi ? Eh bien, tu vas voir !» Puis, il rit tout seul à la pensée de la bonne farce qui venait de lui traverser l'esprit, monta sa carabine, se cacha derrière un mélèze, et paf ! Le bruit strident d'une détonation ébranla l'air silencieux, et la gourde du gendarme vola en éclats. Balthazar le vit se lever, effaré, regarder autour de lui. Un nouveau coup vint enlever le pompon de son képi. Alors le gendarme n'en demanda pas davantage. Il ramassa son ceinturon, prit son képi, son sac, son sabre, et détala plus vite qu'un chamois, pendant que le chasseur se tordait les côtes derrière son mélèze, délivré de son rhumatisme comme s'il l'avait fait cuire devant une bûche de Noël, et tout ragaillardi. « Pour une bonne farce, dit-il, c'est une bonne farce. » Et il se régala du reste de pain et de saucisson que le gendarme avait oublié d'emporter, en regrettant d'avoir cassé la gourde. Sa belle humeur était revenue. Il ne songeait plus à la journée perdue, au chamois qu'il ne rapportait pas, à son rhumatisme qui reviendrait. Allègrement, il exécuta sa descente et se retrouva devant la carcasse de la maison des Riedi. Il appela Jodoc pour lui offrir un verre à son tour, dans la salle où les chalands étaient encore rares. Pendant qu'il buvait, le père Riedi survint. Il partagea la bouteille commencée. Après quoi, il voulut aussi payer sa tournée. Cette générosité ne fut point perdue. Elle attira Joseph Cascaté, qui revenait de faire sa distribution, et qui ne voulut point demeurer en reste. La scène se répéta avec un voiturier de Serviaise, Claude Jacot, long et blond, qui ramenait sa voiture vide, puis avec un autre encore. Puis les tournées recommencèrent, en sorte que, vers le milieu de la soirée, quand il fallut se séparer, on avait fait marcher les affaires. Balthazar avait bu sa large part. Peut-être qu'il aurait eu quelque peine à retrouver le chemin de Valanche si Claude Jacot ne l'eût installé dans sa carriole, ainsi que Joseph, également content de vivre. Pourtant, Jacot était soucieux. Depuis qu'on parlait d'embellir la contrée, les voituriers de Serviaise voyaient poindre le chemin de fer, qui ne pouvait manquer de s'établir un jour ou l'autre, et de ruiner leur commerce. D'esprit inquiet, enclin à se tourmenter, père de beaucoup d'enfants, Claude pensait continuellement à ce danger, dont de vagues propos, entendus la veille à Saint-Maurice, venaient de réveiller sa crainte. De temps en temps, il se retournait sur son siège pour dire à ses deux compagnons « On en veut trop faire dans le pays, vous verrez que ça finira mal ». Mais les deux gaillards ne l'écoutaient pas. Ils bavardaient comme des pies et riaient comme des fous, leur langue déliée par le vin, qui assombrissait Claude, leur esprit porté vers des fantaisies drôles et des histoires égrillardes. Balthazar en comptait deux raides. Et puis, comme sa gaieté croissait toujours, et que le moment vient où il faut de la musique, il entonna la chanson des « Filles de Trois Torrents », si comique qu'elle dérida le triste Claude Jacot lui-même. C'est les filles de Trois Torrents, rang, rang, rang en plein, tire-lire en plan, c'est les filles de Trois Torrents qui vont boire à la pinte. Cependant, les trois conspirateurs, auxquels ils ne pensaient plus, étaient rentrés à Valanche, à l'heure où les hommes s'assemblent sur la place en causant tout bas de la mésaventure du gendarme, qu'on connaissait déjà. Ils étaient gais aussi, ayant fait une bonne affaire, et bu comme il convient. Le vin leur déliait la langue. Ils parlèrent enfin, n'ayant plus rien à cacher, puisque les actes étaient signés, chez le curial Tarenté de Saint-Maurice, et qu'ils rapportaient des billets de banque plein leur portefeuille. Alexis lui-même ouvrait ses lèvres minces, bien qu'il fût moins gai que les autres, et commençait à trouver qu'il aurait mieux fait de garder son champ, car il n'était jamais content de rien, et en regardant sa mine toujours renfrognée, son brave homme de cousin disait volontiers « C'est la bile qui le travaille. Aussi, ce n'est pas sa faute s'il est quelquefois méchant. » Mais les deux autres laissaient déborder leur satisfaction. Georges Étienne, surtout. Ils racontaient leur expédition à tous ceux qui se groupaient autour d'eux. François Combe, son cousin le président, César Cascaté, les Clévoses, d'autres encore. « Rarogne, c'est un gaillard !» déclara Boson. « Un vrai gaillard ! Oh, mais un gaillard !»« Alors ?» demanda François-David, tout prêt à larmoyer. « C'est bien vrai ? Il va faire un hôtel ?»«
Pour sûr !» dit Alexis avec son air mauvais. « Une concurrence pour toi, hein ?»«
Oh, moi, je ne crains personne, j'ai ma clientèle. Les gens savent qu'on est bien chez moi. »
Boson, qui avait le vin bienveillant, s'écria. « D'ailleurs, il y en aura pour tout le monde. Vous verrez ça. Rarogne nous a dit tous ses plans, tous. Après l'hôtel, il en fera un autre. Et puis un café, un grand café. Et puis un casino. Et puis le chemin de fer. » Oui, oui, le chemin de fer. Ils achèteront les champs, ils feront sauter les rochers. Ça sera comme à l'Estral, comme à Zermatt, peut-être. » En les écoutant parler ainsi, les auditeurs tâtaient leurs poches vides et s'entre-regardaient, excités à la curée, déjà méfiants les uns des autres. Quels seraient les premiers servis? Lesquels auraient la meilleure part? Après Frédéric Élie, 100 ans, car celui-là, il savait comme personne écrémer le lait. Pourtant, il ne prendrait pas tout pour lui. Chacun possédait son lopin de terre. Lesquels de ces champs vaudraient le plus? Lesquels cachaient le vrai trésor? Le trésor introuvable qui existe au fond de toutes les légendes du pays. Voilà ce qu'on ne pouvait pas savoir d'avance. Ce que les malins allaient essayer de deviner, pour acheter, pour revendre, pour spéculer. En un mot, comme les gens de la ville spéculent avec des terrains, des actions, des obligations. Ceux qui verraient clair dans ce mystère gagneraient plus d'argent en 2 ou 3 ans, rien qu'en allant chez le curial, que leur père n'en avait économisé en 6 générations de travail et d'économie. Déjà cette idée germait chez plusieurs. Oui, si François David avait su s'y prendre, il aurait peut-être bien revendu la dent grise à Rarogne, au lieu de le laisser construire un hôtel dont la concurrence serait sa ruine. Si les Clévaux avaient su, ils auraient vendu leur chalet, bien situé sur la place, plutôt que de laisser Frédéric Élie vendre son terrain. Tous ceux qui possédaient un lopin de quelque étendue se disaient « Pourquoi pas moi ?» D'autres, moins bien lotis, faisaient des combinaisons. « J'aurais pu m'entendre avec tel ou tel qui est à côté de moi, et c'est nous maintenant qui reviendrions de Saint-Maurice avec des billets de banque pleins nos portefeuilles. » Mais c'était ce roublard de Boson, ce cafard de Pécafava, ce coquin d'Alexis, qui se réjouissait, se vantait, blaguait, comme si tout le monde avait fait leur bonne affaire. En sorte que Gaspard Clévaux, qu'agacé le spectacle de leur triomphe, finit par prendre le bras de son père, qui écoutait sans rien dire, d'un air détaché, et par l'emmener dans leur chalet, où il recommença ses propos habituels. « Voyons, père, est-ce que ça ne vous fait donc rien que tout le monde profite, excepté nous? Voilà ces 3 gaillards qui ont fait une magnifique affaire, pendant que nous sommes là, nous, comme avant. Si au moins on se décidait. Pour bâtir leur grand hôtel, il leur faudra bien 2 ou 3 ans. Nous pourrions encore être prêts avant eux, nous, en nous dépêchant. Mais vous ne voulez pas prendre un parti. Vous avez l'air de trouver que j'ai raison, et au lieu d'agir, vous ne dites ni oui ni non. » Vieille Suisse, qui ne s'émouvait pas, se contenta de répondre, après avoir longuement réfléchi, « Pour faire un hôtel, il faut une femme. Marie-toi. » « Bien sûr que je me marierai, » dit Gaspard, « mais c'est moins long de se marier que de bâtir, et l'on pourrait toujours commencer en attendant. » Le père Clévaux secoua sa tête obstinée et dit « Marie-toi d'abord, ensuite on verra. » Après quoi, il ne parut plus écouter les discours de Gaspard, qui ramenait toujours les mêmes raisons, en criant et en se démenant, comme si les gestes et les cris pouvaient agir sur son père. Naturellement, le mariage rentrait aussi dans ses plans. Seulement, il entendait se marier à sa guise. Il voulait une fille de la ville, qui aurait bonne façon, qui lui apprendrait les belles manières et lui donnerait des fils qui seraient des messieurs. De la fenêtre de son vieux chalet, il lorgnait les demoiselles des 2 hôtels, avec l'idée que dans le nombre, il s'en trouverait une à laquelle il plairait. Pourquoi non, après tout? N'était-il pas un beau garçon, avec sa mine éveillée, ses cheveux noirs, ses yeux vifs, la force de ses membres souples, et un bon parti par-dessus le marché, car il aurait du bien plus tard, étant fils unique. Quant à venir habiter Valanche, cela n'était pas un obstacle, puisqu'elles disent toutes qu'elles adorent la montagne. Quand il aurait montré au monde ce qu'il savait faire en démolissant son chalet pour créer un hôtel, il trouverait bien celle qu'il lui fallait. Et il l'attendait, cette perle, plein de dédain pour les filles du village, en passant des heures derrière ses contrevents à se remplir les yeux des jolis minois, des robes claires, des chapeaux à fleurs qu'on voyait aller et venir sur la place. Cette année-là, justement, la saison n'avait jamais été si brillante. Au Chamois, on logeait les passants où l'on pouvait, au salon, dans la salle à manger, jusque dans la cuisine. Élise Allais s'ingéniait en 1000 combinaisons pour multiplier ses chambres et dédoubler ses matelas. Son joli visage fin était déjà tout marbré de fatigue, avec des cercles noirs autour de ses yeux qui ne dormaient plus. Car son personnel était insuffisant pour le service de ses 80 pensionnaires. Il fallait qu'elle le secondât, et à elle seule, elle faisait bien la moitié de la besogne. Ah, c'était une rude travailleuse, celle-là. Elle ne portait pas de voyage, elle ne battait pas le linge au lavoir, mais elle n'en trimait pas moins comme un homme. Et une tête solide, encore, qui roulait aussi des plans, pour sûr, bien qu'elle n'en parlât à personne. Des plans qui devaient être pleins de sagesse, et qui aboutiraient sans hâte au cours des années, comme les fruits mûrissent. Vieille Suisse se disait souvent que malgré ses deux jumelles, elle ferait joliment l'affaire de Gaspard, et qu'avec une bru pareille, il se serait lancé dans toutes les combinaisons qu'elle aurait voulu. Mais Gaspard, bien qu'il n'osât pas dévoiler à son père ses idées de derrière la tête, faisait la sourde oreille, parce qu'il tenait à sa demoiselle. D'ailleurs, la petite veuve avait déclaré qu'elle ne se remarierait jamais, et l'on pouvait croire que si elle revenait sur cette décision, ce ne serait pas pour les beaux yeux de son voisin, qu'elle tenait pour un cerveau brûlé. Chapitre 4. Peu à peu, parmi les 100 personnes serrées autour des tables du chamois, des groupes se formèrent, au hasard des sympathies ou des rencontres. Quelques Anglais se joignirent à la famille Watson. Ils constituaient une colonie indépendante et tyrannique, qui s'empara du salon pour danser les soirs de pluie et chanter des cantiques le dimanche, traitant l'hôtel, les servantes, les touristes, le village en peuplade de nègres ou de fellahs. Fort aimables, d'ailleurs, pourvu qu'on ne les gênât pas, accueillant avec une politesse condescendante les étrangers disposés à se joindre à eux, comme Arléguian, qui continuaient à les suivre dans leur promenade avec des airs de caniche sans maître. Le groupe des alpinistes, auquel Sterny se joignait pour les flâneries, sinon pour les courses, s'était augmenté de Georges Croissy. Le peintre avait obtenu, non sans peine, que Vieille Suisse posât pour lui. On pouvait voir, dans le pré de Frédéric Élie, l'artiste et son modèle, l'un nerveux, chercheur, inquiet, l'autre rigide et grave, gardant la pose sans broncher, ses rudes mains brunes immobiles sur ses genoux, sa tête engoncée dans le grand col qui caressait ses oreilles poilues, roulant Dieu sait quelles idées dans son silence immobile. Croissy travaillait aux études d'un grand tableau qui devait représenter une touchante cérémonie du pays, la bénédiction des tombes, telle qu'elle se pratique chaque dimanche avant la messe. Pour décor, l'humble cimetière autour de l'église, avec ses croix de bois noir, la variété de ses vieilles fleurs démodées, et dans les arrière-fonds, les flancs verts de la Pernelle, l'ascension hardie de la pointe de Mannerie, et plus loin, à peine estompées dans l'air matinal, les lignes déchirées de la Dent Rouge. Auprès des tombes, des familles, agenouillées ou inclinées en des poses parfois admirables de douleur ou de recueillement. Un grand vieillard courbé sur une touffe d'astère, une mère guidant la main d'un enfant pour dessiner le signe de la croix, tandis que le prêtre, portant le camail pourpre qu'un privilège a concédé aux chanoines réguliers de Saint-Maurice, esquisse le geste qui répand la bénédiction sur toutes les iniquités pardonnées. Dans ce tableau, dont il parlait sans cesse, Croissy enfermait une idée, le culte poétique du passé. Quand il n'y travaillait pas, il y pensait, installé sur un rocher, juste au-dessus du cimetière, à mi-hauteur du clocher. Il rêvait alors à ces morts obscurs couchés dans le bon repos, après tant de fatigue, qu'évoque ou qu'accompagne la pieuse pensée de leurs descendants, en sorte qu'un lien mystérieux subsiste entre ceux d'autrefois et ceux d'aujourd'hui, un lien fait de souvenirs, de prières, de respect, d'effort commun. Volant, fort incroyant, le taquinait volontiers sur le dilettantisme mystique où l'entretenait son sujet. Mais pour d'autres motifs, il n'était guère moins attaché à ce passé, dont les croix des tombes demeuraient le symbole, et volontiers, en revenant de course, il se lançait avec le peintre en longue dissertation sur les mœurs et les aspects du pays. Placé à son premier repas à côté de Madeleine Vallée, Sterny remarqua au repas suivant qu'on l'avait séparé d'elle. Comme il nouait conversation avec la tante, en songeant vaguement à l'apprivoiser, il rencontra le regard de Madeleine qui le suivait, étonné, presque farouche. Comme si les quelques paroles échangées la veille ayant déjà créé entre eux un commencement d'amitié, la jeune fille, inquiète et jalouse, lui reprochait de passer à l'ennemi. À ce regard, il répondit par un sourire pour elle seule, un sourire en dedans, dont elle devina sans doute le sens ironique, car aussitôt ses yeux se radoucirent. Et ce duo silencieux fut quelque chose de charmant, comme le sont toujours les airs que murmurent les naissantes sympathies. Dès le lendemain, Sterny se piquait au jeu. Un rien d'espièglerie rentrait en lui. D'abord, l'entreprise parut ardue. Madame Vallée gardait la défensive, répondait par des monosyllabes, le scrutait de regard méfiant. Puis il gagna du terrain, se contenta d'une réponse moins rébarbative et s'arrêta là, remettant au jour suivant la poursuite de son avantage. Il était de ceux qui veulent savoir et que leur instinct pousse à plaire. Nul sentiment ne le possédait encore. Un attrait l'appelait, voilà tout. Quand à la dérobée, il regardait Madeleine, il sondait le secret de ses grands yeux, qui ne parlaient à personne et déjà se confiaient à lui. De cette réserve hautaine et triste, si peu naturelle à 20 ans et si désireuse de se relâcher, de cette sourde sympathie qui d'emblée les engageait dans une espèce de conspiration contre un ennemi commun. C'était le jeu secret de la nature qui se jouait en eux, ce jeu toujours le même, aux signes à peine divers, qui poursuit ses fins paisibles par-delà les caprices et les violences de nos émotions. Ni l'un ni l'autre ne s'en doutait encore. Madame Vallée, aveuglée aussi, laissa bientôt s'endormir sa perspicacité, pareille au dragon des légendes qui veille sur les passants inoffensifs et ferme l'œil sitôt qu'approche le chevalier libérateur. L'ennui s'en mêlait. Elle songeait « Ce jeune homme est agréable. D'ailleurs, il habite Paris. Il est ici pour quelques jours. Bientôt, nous ne le verrons plus. » C'était des garanties. Une visite de M. Vallée acheva de rompre la glace. Beaucoup plus sociable, beaucoup moins méfiant que sa femme, moins absorbé surtout par des calculs éloignés et par le travail d'une méchanceté rancunière, enclin plutôt à s'étirer dans la prospérité nouvelle qu'il devait à Madeleine, comme un bon chat s'étire dans la chaleur après des déboires sur les toits, il éprouvait le besoin de causer avec n'importe qui, de verser dans une oreille complaisante la confidence de ses idées sur toute chose, ou même, quelquefois, à voix très basse, des plaintes contre le despotisme de sa femme, la sottise de son fils, les humeurs noires de sa nièce. Sterny se trouvait là, à point nommé pour ce rôle d'écouteur. Il fit rapidement assez de chemin dans l'intimité des Vallée pour pouvoir les décider à monter à Solnoir, en compagnie, sous la conduite du guide César Cascaté, assister à la cérémonie de la bénédiction des troupeaux, qu'on y célèbre à la mi-août. Solnoir est un de ces hauts pâturages où les vaches passent leurs 2 mois d'été, sous la garde de quelques pâtres et d'un fruitier, qu'absorbe la fabrication du beurre et des fromages. Séparés du monde pour plus de 8 semaines, ces quelques hommes s'entassent avec leurs bêtes dans les huttes où souffle le vent aigre des nuits froides par les intervalles des pierres sans ciment et des planches disjointes. Couchés sur une planche, dans une sous-pente de la Chavanne, l'unique pièce qu'ils se réservent en dehors des étables, ils se nourrissent de pain sec et de polenta, qu'ils trempent dans le petit lait ou mélangent au serré. Leur travail commence avant l'aube, pour se prolonger tard, et quand ils ne travaillent plus, ils jouent autour de l'âtre ou sur le gazon, à quelque jeu naïf, le jeu de la truie ou le jeu des couteaux, où les triques, les morceaux de bois noueux, les mottes de gazon, remplacent les balles et les palettes. Mais plus souvent encore, ils fument des pipes silencieuses, n'ayant rien à se dire au bout des longues journées, toutes pareilles, rompant à peine leur silence pour rire d'un bruit insolite ou d'une grosse farce. De temps en temps, quelque messager vient renouveler leurs provisions, ou des alpinistes leur demandent à s'étendre dans leur foin avant une ascension. Ils ne savent rien de ce qui se passe loin d'eux, au-dessous d'eux, derrière le rempart de leur montagne. Ils n'entendent que mugir leurs taureaux, meugler leurs vaches, bruire les eaux qui parcourent leur gazon, gronder de proches avalanches. Et ils demeurent là, absorbés heure après heure par l'accomplissement de leur besogne ou les soins de leurs bêtes, roulant peut-être en eux de confuses pensées dont ils ne cherchent pas l'expression, enveloppés sans le savoir par la sauvage poésie du paysage et de la solitude, songeant parfois, avec des commencements de terreur, aux légendes de l'Alpe. Aux âmes damnées qui errent sur les glaciers voisins ou roulent des pierres dans les lits des torrents. Plus que d'autres, les pâtres de sol noir voient arriver vers la chute du jour des touristes avec leurs guides, car leur domaine est magnifique, au pied de sommets qu'on aime à gravir. C'est une vaste plaine que sillonnent des eaux abondantes, qu'entoure un cirque prodigieux de montagnes célèbres. Au sud, les cinq cimes de la Dent Grise, cinq forteresses fantastiques, toute une architecture de titans en délire, entassant pour l'assaut du ciel les rochers énormes sur la base des éboulis en pyramide et des glaciers ancrés dans le sol dur. Au nord, le Florent, moins haut, moins menaçant, non moins tragique. Longue arête dentelée qui prend un air de monstre au repos. Puis, fermant l'espace, à l'occident, la masse plus majestueuse de la Tour aux Fées, avec ses trois sommets arrondis en coupole régulière et sa paroi formidable dressée à pic, presque perpendiculaire, coupée seulement au milieu par un glacier que sa chute interrompt brusquement et qui, retenu par un miracle d'équilibre, semble toujours prêt à s'effondrer de toute sa masse au pied de la géante qu'il cuirasse de ses reflets d'acier. Vers l'Orient, l'espace se déchire. Une large échancrure descend sur la plaine, telle une brèche ouverte dans la redoute, et des sommets éloignés se confondent avec les nuages. Quand, après la fatigue du chemin, le long du torrent, l'épande, qui roule au Rhône les eaux réunies de sol noir, la caravane des touristes découvrit le paysage, ce furent des exclamations ou des silences qui varièrent selon l'âme de chacun. Monsieur Vallée, hors d'haleine, approuva posément, en homme que rien n'étonne. Il haleta.
« C'est vraiment très beau. Oui, très beau. Ça vaut la marche. »
Arleguian, qui avait suivi, exprima dans son jargon un enthousiasme incohérent. Mademoiselle Lechesne et Mademoiselle Baudoir, leurs longs corps maigres appuyés sur leurs bâtons, échangèrent quelques réflexions sur la grandeur de Dieu que ses œuvres manifestent. Madame Vallée, qui se plaignait dès le premier quart d'heure, gronda
« Enfin, on m'avait parlé de 3 heures de marche, en voilà 5 que nous grimpons. J'espère que nous sommes arrivés cette fois. C'est le moment. »
Madeleine s'isolait sans rien dire, selon son habitude de garder pour elle ses émotions. Mais son regard parlait à celui de Julien, qu'il cherchait et croisait de minute en minute. Jules,
indifférent, lançait des cailloux dans l'eau bouillonnante de l'épande. Comme ils se remettaient en marche, ils furent rejoints par Volant, venu par des sentiers plus difficiles. Tout en marchant, à plat maintenant, l'alpiniste leur racontait la dramatique histoire de la dent grise. Les luttes, au temps préhistorique, contre le glacier du Rhône, dont la masse compacte emplissait la vallée. Les éboulements qui, de siècle en siècle, déchirèrent ses parois. Le Novérose s'écroulant, comme autrefois le mont Taurus, et barrant le cours du grand fleuve. Et l'évêque de Sion, exorcisant en vain les eaux grossissantes, que l'effroi populaire voyait pleines de damnés. Plus récemment, des convulsions dont les vieillards se souvenaient encore avaient secoué et tordu la tragique montagne. On l'avait vue s'avancer tout entière, enveloppée d'une fumée blanchâtre, puis éclater en salves formidables et précipiter dans le Rhône d'énormes blocs de rochers qui semblaient flotter sur le courant et rebondissaient à plusieurs reprises avant de disparaître. Depuis un demi-siècle, elle est à peu près tranquille, mais les eaux poursuivent leur travail invisible, en sorte qu'elle demeure une menace, et qu'en des temps peut-être proches, sa masse s'abîmera dans la vallée. En sorte, conclut Volant, que ce sont les ruines qu'elle porte qui la font si belle.
On dirait vraiment que vous l'aimez,
fit Sterny en badinant. Il répondit,
comment ne l'aimerais-je pas? À Vevey, la fenêtre de ma chambre est orientée de telle sorte que je la vois à mon réveil. Je la retrouve en face de moi à l'hôtel où je prends mes repas. Elle se dresse vis-à-vis de la salle où je traduis Virgile à mes élèves. Elle m'observe dans toutes mes promenades. J'ai gravi plusieurs fois ces cinq cimes. Deux d'entre elles, moi premier. Quand je ne la vois pas, je m'ennuie d'elle et je veux la revoir.
Il avait dit cela d'un ton sérieux, presque grave. Il sourit en continuant. Seulement, elle n'a pas tout mon cœur. Il y a sa voisine, la tour aux fées, que j'aime au moins autant. Regardez-la donc. Elle est d'une autre beauté, celle-là. Plus régulière à la fois et plus mystérieuse. Elle a l'air d'avoir des secrets. Elle réfléchit davantage, plus isolée, ayant des orages dont les éclats ne vont pas jusqu'à la plaine, comme ces grandes âmes solitaires qui demeurent ignorées. Comme pour lui donner raison, l'énorme montagne, à cette heure, semblait vivre d'une vie active et rapide, d'une vie personnelle, presque humaine. Les couleurs changeantes que les jeux de la lumière étendaient sur son glacier donnaient à sa lourde masse un aspect de figure inquiète, que transforme et bouleverse de puissantes émotions. On la voyait pâlir comme d'effroi, rougir comme de colère. Puis, pour un instant, toute rose, elle semblait une vierge dont le beau sang colore les chairs de marbre. Elle parlait aussi. Les continuelles avalanches, qui d'instant en instant s'écroulaient sur ses flancs, lui prêtaient une voix pour gronder, pour gémir, pour pousser des plaintes, qui, tour à tour, éclatent ou s'étouffent comme des cris de victoire ou des râles d'amour. Ce n'était plus un entassement inerte de pierres et de neige. C'était un être animé, un monstre superbe, dont les formes et la voix dégagent une fascination fatale. Madeleine, qui les suivait à distance sans entendre leurs propos, les rejoignit pour demander à Volant en désignant la tour aux fées du bout de son ombrelle. « Est-ce une ascension qu'on peut faire ?»«
Facilement, » répondit-il. « On passe par Ververine, de l'autre côté du col du Florent, là, à gauche. On arrive sans peine sur l'arête que vous voyez. On la suit tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, jusqu'au pied du dernier sommet, où l'on monte par des cheminées très rapides, mais dont aucune n'est vraiment dangereuse. »
« Mais par ici ?» demanda encore la jeune fille en montrant l'énorme paroi qui tombait sur sol noir. « Ce serait impossible, n'est-ce pas ?» Les yeux de Volant brillèrent comme ceux d'un chef à qui l'on parle d'assaut.
Ah, mademoiselle, impossible est un mot rare à la montagne.
Difficile, certainement. Pourtant, regardez bien le grand revers, comme on appelle cette paroi presque unique dans les Alpes. Une fois gravi les boulis que vous voyez à droite, je crois qu'on pourrait, par un de ces couloirs, arriver au glacier. Pour traverser le glacier, qui n'est pas large, il faudrait compter avec les chutes de pierre. Après, je ne sais plus. Les vraies difficultés commenceraient. Les sourcils froncés, l'œil tendu, il sondait du regard le mystère de la paroi supérieure, trop éloignée en hauteur pour qu'on pût calculer l'inclinaison des pentes ou les saillies des couloirs.
« Vous essaierez ?» dit Madeleine.
Avec un léger haussement d'épaule et une affectation d'indifférence, il répondit « Je n'y songe pas. » Les vrais alpinistes sont comme les vrais amoureux. Ils gardent leurs secrets pour eux seuls. Enfin, les chalets apparurent. Rangés en cercle autour des dernières pentes vertes de la dent grise, si bas que leur toit semble raser le sol, gris dans la lumière douce de l'après-midi finissante, ils se confondaient avec les blocs de rochers qui les surplombent parmi les gazons. Le troupeau, qui rapportait ses mamelles pleines, se rassemblait alentour. Quelques génisses folâtraient. Un puissant taureau noir, le cou tendu, frottait son mufle contre celui d'une jeune vache, frémissant sous la caresse du mâle. Les pâtres poursuivaient les bêtes obstinées à s'attarder parmi les herbes et les fleurs. La caravane, que précédait César Cascaté, entra dans la chavane du meilleur chalet. César parlementa un instant avec le fruitier qui surveillait sa chaudière et s'interrompit à peine pour apporter du lait, de la crème, des écuelles, pendant que le guide déballait et disposait sur le tabla les provisions du dîner. Le repas achevé, bien que l'air fût vif, les touristes s'en furent errer autour des chalets. La nuit tombait. Les silhouettes disparaissaient dans les ténèbres où s'estompaient pourtant les blancheurs des glaciers. Les voix chuchotaient parmi le murmure sourd des eaux et le tintement éloigné des sonnailles, dans un recueillement d'églises qui gagnait les indifférents. Madeleine et Sterny se trouvèrent près l'un de l'autre, dans l'ombre épaisse. Il l'appela. « Venez là !» Elle vint. Ils s'assirent sur la même pierre, envahis par la même impression de paix et de mystère qu'ils jouissaient inconsciemment de partager. Une crainte vague, au fond d'eux-mêmes, les empêchait de se taire, mais leurs lentes paroles devinrent bientôt intimes comme le silence. Il brûlait de lui dire le désarroi de son âme. Elle eut des mots qui trahissaient sa peine. Il osa lui demander « Pourquoi donc avez-vous tant de tristesse au fond de vos yeux, qui sont si beaux ?» Elle, si retenue, si vite effarouchée, ne s'offensa ni de la question ni du compliment. Oppressée, elle murmura « Ah, il y a tant de choses !» Il dit « Tant de choses ? Vous avez 20 ans, vous êtes la jeunesse, le printemps, vous êtes les fleurs !» Elle dit « Il y a des printemps sans soleil, il y a des jeunesses sans sourire, vous ne savez pas, si vous saviez... » Elle s'arrêta. À quoi bon raconter ses tristesses ? Et comment ? Et ils purent se taire. Déjà leurs douces pensées se cherchaient, quand soudain l'aigre voix de Madame Vallée éclata. « Madeleine !» Ils se regardèrent, la voix répéta. « Madeleine ! Madeleine !» Son diapason devint plus aigre. « Madeleine, où es-tu ? » La jeune fille répondit « Pas bien loin. » « Tu ne m'entends donc pas ? Tu viens ?»«
Oui, je viens. »
Ils s'éloignèrent en sens inverse, plus avant dans la nuit, tandis que la voix, affaiblie par la distance, clamait toujours « Madeleine ! Madeleine ! Madeleine !» Tout à coup, à 3 pas d'eux, ils devinèrent la longue silhouette de Jules. dont les yeux de chat devaient percer les ténèbres. Aussitôt, ses doigts s'agrippèrent à la main frissonnante de Madeleine. Il cria « La voici, maman! Je l'ai! Je l'amène !»
Sternie sentit que la jeune fille tremblait toute. Pourtant, elle ne fit aucune résistance. Elle se contenta de dégager sa main de celle du mauvais garçon en disant d'une voix blanche « Allons, montre le chemin. » Un instant après, Julien entendit le murmure des reproches dont Madame Vallée accablait sa nièce et distingua les silhouettes des deux femmes qui disparaissaient dans leur chalet. Alors, il se trouva très seul. À petits pas, il se dirigea vers le racard qu'il devait partager avec les hommes, dont une lanterne au bout d'un bâton éclairait la porte. Mais, peu pressé d'entrer dans cette tanière, il s'assit sur une pierre voisine pour fumer une cigarette. Comme il se préparait à suivre le fil de ses vagues rêveries, M. Vallée vint s'asseoir à côté de lui. L'avocat parlait volontiers de questions très diverses, beaux-arts, politique, littérature, religion. Où qu'il fût, il aimait à tirer de sa réserve des lieux communs, qu'il développait pour son propre plaisir, sans aucun souci de leur opportunité. Ce fut ainsi qu'il se mit à exposer sa théorie de la représentation proportionnelle, sauvegarde du droit des minorités dans les parlements. Puis Julien, négligeant de lui donner la réplique, se tut un instant et reprit tout à coup. « À propos, cher monsieur, il me semblait que votre nom me rappelait quelque chose. » Julien frissonna. « Quoi donc ? » demanda-t-il. « Cette affaire, vous savez bien, cette affaire qui a fait tant de bruit il y a quelques mois, une femme assassinée par son mari en présence de l'amant. Oh, mon Dieu, un crime passionnel qui n'était pas plus intéressant que beaucoup d'autres, car ces vilaines histoires d'adultère se ressemblent toutes. Moi, je l'ai remarqué, pour m'être trouvée jadis en relation avec l'avocat du mari, Maître Douce. Il a fait mentir son nom ce jour-là, car il a cruellement malmené l'amant, celui qui portait votre nom, justement. » Affolé, hors d'état de dominer son émotion, de donner le change ou de se taire, Julien s'écria « C'était moi-même, monsieur. » L'autre eut un geste de recul, stupéfait d'une telle rencontre, dont la possibilité n'avait même pas effleuré son esprit paisible. Julien continua « Oui, c'est moi qui suis le héros de ce triste drame. J'ignore comment me jugent ceux qui ne le connaissent qu'à travers les journaux. Tout ce que je sais, c'est que ma vie en est gâtée pour toujours. Je marche maintenant dans un cauchemar affreux. Je me confonds en efforts pour le fuir. Ici, j'étais parvenu à l'oublier un peu. Je vous en supplie, monsieur, gardez-moi mon secret. Il me serait impossible de rester à Valanche si l'on y connaissait mon histoire. Et c'est le seul coin du monde où j'ai trouvé un peu de paix. » Monsieur Vallée protesta de sa discrétion, promit son silence, et les deux hommes restèrent à côté l'un de l'autre, dans l'embarras. L'arrivée de Jules, qui se trouva devant eux sans qu'on l'eût entendu s'approcher, leur fournit le prétexte d'en sortir. D'ailleurs, César les appelait, en leur rappelant que la nuit serait courte. Ils rentrèrent donc dans leur racard, à la lumière falote de la lanterne, et s'arrangèrent dans le foin, après un dernier bonsoir. Bientôt après, Julien entendit leur souffle régulier d'hommes bien portants, auxquels chaque nuit apporte le même sommeil. Alors, dans l'épaisse obscurité, dans la fraîcheur qui pénétrait par les intervalles des planches, dans le silence que rompaient sans cesse les piétinements et les bruits des vaches dans l'étable au-dessous d'eux, il sentit ses angoisses assoupies se réveiller l'une après l'autre. Les heures passèrent, d'une lenteur telle que la nuit lui parut infinie. Elle finit pourtant. Des lueurs incertaines filtrèrent, comme l'air froid, à travers la paroi. Il secoua son foin et sortit à tâtons. Le vaste cirque désert, noyé dans le crépuscule, semblait monotone et morne comme le désespoir.
Une teinte unique s'épandait sur les roches de la Dent Grise, du Florent, de la Tour aux Fées, dont les déchirures évoquaient des images de villes prises, aux remparts éventrés, de brèches où des armées auraient passé, de cathédrales maudites que l'abandon dévore. Des bandes de nuages couraient sur leurs flancs, pareils à des escadrons de fantômes. La neige des glaciers gardait sa lividité de mort, et le ciel incertain, bas et plombeux, paraissait une coupole vide où nulle lumière ne naîtrait jamais plus. Quelle tristesse Julien attendait maintenant de cette journée, dont la veille il avait osé se promettre un peu de joie. Voici qu'au lieu de l'oubli espéré, elle réveillait ses souvenirs, ravivait son mal, ramenait dans sa mémoire les fatales images. Et sur le fond sourd de l'angoisse, des remords atténués, apparaissait un nouveau souci, plus précis et douloureux. Que pensait-elle de lui maintenant? Et que faire? S'esquiver avant le réveil des autres, comme un coupable qui s'enfuit? Ou rester, en épiant le sens des regards qui se poseraient sur lui, le vol secret des pensées derrière les fronts? Julien resta. Comme en un rêve, il vit des groupes de paysans apparaître sur le col de la Salette où passe la route à mulets, grandir en descendant vers les chalets, se grouper autour de la minuscule chapelle, trop petite pour les contenir, s'agenouiller pendant la messe basse, que le prêtre en surplis blanc célébra sur le seuil, et les prières muettes passaient comme un souffle invisible sur les grands chapeaux plissés des femmes, sur les têtes nues des hommes, immobiles dans leur pose pieuse, comme les pierres qui sortaient autour d'eux des gazons. Les yeux distraits de Julien erraient sur le tableau en cherchant Madeleine. Il tressaillit quand il la vit arriver aux côtés de son oncle qui lui parlait. Il pensa « Elle sait » et n'osa pas s'approcher d'elle. Pourtant, il doutait encore. Il tâchait d'étayer un peu d'espoir sur la promesse de M. Vallée. Mais bientôt, il ne douta plus. César Cascaté rassemblait les touristes qui comptaient faire le Florent. Et M. Vallée prétexta sa fatigue de la veille pour refuser de se joindre à eux. Alors Sterny sentit que son rêve se dissipait. La tête à demi vidée, il se mit en marche aux côtés de Volant, dont l'œil bienveillant l'observait. Et il demeura le dernier de la caravane, à traîner ses pas lassés, indifférent à la clarté de la matinée, à la magnificence des aspects. Il ne songeait qu'à se laisser bercer par la fatigue, par l'essoufflement, par l'effort, qui chassait ses pensées. Il montait, et la grimper le soulageait. Il aurait voulu grimper toujours. Mais, après une longue pente gazonnée, après un névé que termine une reprise des gazons plus maigres et moins verts, un dernier effort amena la petite troupe sur le col. Des cris d'enthousiasme éclatèrent, et l'apparition d'un nouveau paysage réussit à distraire le triste grimpeur. « Eh bien ! » demanda Volant en frappant gaiement sur l'épaule de Sterny. Avec effort, Julien répondit « Oui, c'est magnifique !» Mais le spectacle étendu sous ses yeux s'effaçait déjà de sa pensée. À la descente, une émotion plus directe l'arracha violemment à lui-même. Pour rentrer au village par un autre chemin, la troupe devait traverser le pâturage de Mannery. Un petit groupe de chalets grisâtres, pareils à ceux de Saulnoir, dans un cirque plus restreint et moins haut. Comme ils s'arrêtaient pour demander du lait, le fruitier, en les servant, leur dit « Vous savez que Valanche a brûlé ?» Ils se regardèrent avec stupeur. « Quand donc ?» demanda Volant. « La nuit dernière. » César dit « Tout le village ?» « Je ne sais pas. » « Est-ce qu'il y a des victimes ?»« Je ne sais pas. » Tranquillement, le fruitier se remit à surveiller la cuisson de son fromage, et l'on ne put rien tirer de plus de l'homme silencieux,
qui, ayant dit tout ce qu'il savait, n'avait plus rien à dire. La sinistre nouvelle accéléra leur descente, car tous, inquiets, prenaient leur part du malheur. Volant répétait « Ah, les pauvres gens, les pauvres gens !» Mais ils ne rencontrèrent personne sur leur chemin. Ce ne fut qu'au traversis qu'ils obtinrent quelques détails. Il y avait 3 blessés, dont César demanda les noms. Le feu avait éclaté dans l'enchevêtrement des vieux chalets derrière la place. Une 15aine au moins était détruite. Beaucoup de chèvres et de porcs avaient péri. D'immenses provisions de foin avaient flambé en un clin d'œil. En écoutant ce lamentable récit qu'un paysan, arrêté au bord de la route, se faisait arracher par bouts de phrases et par monosyllabes hésitants, Julien ne songeait plus qu'au désastre du village prospère, à la ruine des pauvres gens, hier si tranquilles, peut-être heureux, qu'un coup du sort privait de leur abri et rejetait brusquement à la misère. Et c'était peut-être la première fois de sa vie qu'il sentait courir dans son cœur un frisson de compassion et de solidarité pour les humbles douleurs des autres. Quand ils arrivèrent, les décombres fumaient encore. Les cendres, les pierres noircies, les planches calcinées faisaient comme une grande tache de lèpre qui rongeait le village jusqu'à la place. Parmi ces ruines erraient les victimes qui venaient contempler ce qui restait de leur toit, de leur foyer, de leur grange. Des femmes pleuraient en d'immobiles attitudes de désespoir. Des hommes sombres remuaient des poutres encore tièdes dont les charbons éteints s'effritaient entre leurs mains. Beaucoup regardaient dans un morne étonnement, comme si leurs yeux doutaient encore de l'affreuse réalité. À quelque distance, au bord du chemin, Gaspard Clévoz, Joseph Cascaté et 2 ou 3 autres observaient la scène en curieux et causaient avec beaucoup d'animation. Comme Volant s'approchait d'eux, Gaspard lui dit presque gaiement « Voilà qui va changer la face des choses, monsieur Volant. On ne pourra pourtant pas reconstruire ces tanières comme elles étaient, n'est-ce pas ?» Il cligna de l'œil en ajoutant d'un air entendu « Alors, il faudra bien suivre le mouvement. » Volant considéra les ruines, les groupes, ce qui restait du village, et il dit à ses compagnons « Cette fois, c'est bien la fin du vieux Valanche. Vous verrez ce qui poussera sous ces décombres. Des maisons blanches, des hôtels, des pensions, et c'est le feu qu'il aura voulu. »